La chambre.
Bonjour, ça va ?
Bonjour, bah ça va bien. Écoutez, on est effectivement dans un bel endroit qui arrive à allier la culture et la solidarité. Et c'est ce qu'on essaye de faire vivre au quotidien à Paris. Pour des publics qui sont effectivement soit sans solution d'hébergement, soit juste au-dessus, mais qui peuvent avoir des choses un peu précaires, qui peuvent dormir chez des tiers, dans une bagnole ou dans un parking. On se dit que la question de l'insertion dans la ville, elle passe aussi par le fait que ces publics, au-delà de la question de la survie et de l'accès à des douches ou à de l'aide alimentaire, ils puissent aussi accéder à un peu de plaisir, un peu de culture, un peu de sport, un peu de loisirs.
Un peu de vie, quoi.
Un peu de vie.
Sortir de la subsistance, rentrer dans l'existence.
Exactement ça. Et c'est ça qu'on essaye de mener. Ce lieu-là le permet vraiment, il le traduit vachement bien.
Qu'est-ce qu'il y a de vraiment, c'est stupide comme question, mais d'essentiel dans la culture quand on veut se réinsérer ?
Déjà, il faut savoir pousser la porte des lieux culturels. C'est pas facile parce qu'en fait, une grande partie des publics qui sont un peu exclus n'osent même pas pousser une porte parce qu'ils ils s'auto-interdisent, ils pensent que ce n'est pas pour eux.
C'est ça.
Et donc, tout notre enjeu, il est de leur permettre de pousser la porte. Alors, il y a deux manières de le faire. La première, c'est de faire des portes ouvertes, donc de leur rappeler que les portes, les fenêtres, c'est ouvert et qu'il faut venir. Donc, on le fait de plusieurs manières. On installe des dispositifs, par exemple, d'aide alimentaire dans des lieux culturels, la Gaîté Lyrique, le Pompidou ou même la MP2A. On ouvre des petits déjeuners solidaires tous les hivers depuis 2 ans. Et on s'est rendu compte qu'en travaillant avec ces espaces culturels à des actions un peu spécifiques à destination de ces publics-là, en fait, non seulement les professionnels de la culture qui sont dans ces lieux-là découvrent des personnes qui en fait sont tout à fait prêtes et tout à fait aptes à participer aux actions culturelles. Et puis que les personnes qui elles-mêmes avaient jamais osé pousser la porte et qui sont juste venues pour manger, boire un café un matin, en fait sont restées, voire même sont revenues. Et donc ça fonctionne hyper bien.
Et ils se sont oubliés dans la création, dans l'exposition.
On a fait des trucs, on a fait des podcasts avec eux, on a fait de la photo, on a fait juste des déambulations ou des visites privées, rien que pour eux. Et ça, rien que ça, ça a été très très fort pour tous ces publics. Et puis l'autre chose qu'on essaye de faire, c'est de faire de l'aller vers, c'est-à-dire de faire sortir la culture de ces murs. Pour être dehors aussi au quotidien.
Alors excuse-moi, c'est un mot technique, de l'aller vers.
Ouais.
Parce que comme ça, lié, on se dit qu'est-ce que ça veut dire ce mot, c'est un néologisme, mais non. Parce que c'est deux mots, c'est aller vers. Exactement, qu'on prenne d'eau.
Exactement, et on sort un peu des murs. Alors on le fait pour la culture, mais on le fait aussi pour plein d'autres dispositifs. Mais la culture a vocation aussi à s'exprimer à l'extérieur. Et du coup, à être accessible sans qu'il y ait de porte à pousser à des publics qui s'interdisent, encore une fois, de pouvoir y accéder. Donc, le fait de pouvoir faire sortir la culture de ses lieux habituels est aussi très précieux. Et donc, on fait ça dehors. Donc, on fait des événements culturels dehors au quotidien qui ont vocation à s'adresser aussi au public en rue, mais aussi des lieux de solidarité dans lesquels on installe de la culture, comme celui-ci.
Et ça fonctionne, les gens s'ouvrent, on attend toujours que des résidents ici viennent nous parler. C'est un appel pour ceux qui ont des casques, j'en vois, qui regardent les photos. N'hésitez pas à venir nous parler, nous avons envie d'aller vers vous et j'espère que vous allez aller vers nous. Toi-même, Léa, toi tu vas en rave ?
Non, moi je suis pas une grande nocturne. Moi la nuit je dors parce que je fais des choses compliquées, difficiles en journée. Parce que j'ai un mandat politique et local qui me prend beaucoup beaucoup d'énergie.
Et qui t'interdit de te droguer aussi.
Alors ça, chacun fait ce qu'il veut.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, bah tiens, il y a ton dealer qui est là.
Mais je suis pas une grande nocturne.
Ouais, c'est bon, on arrive, mets-nous un truc de côté.
Ça, alors là, sur ça, j'ai pas d'avis.
En revanche, le parallèle, parce que tu sais bien utiliser les mots pour parler de ce qui se passe concrètement en termes de culture, le parallèle ici avec cette exposition et le lieu, comment tu le tisserais ?
Je pense qu'on a une partie de nos publics qui sont aujourd'hui dans la grande exclusion, qui ont aussi connu des moments festifs et des moments de vie nocturne tels qu'on peut les voir dans les photos qui sont exposées ici. Et que, alors pour certains, ça ne mène pas à de la grande exclusion, mais pour d'autres, ça peut le mener. En tout cas, nous, on le sait que dans nos publics que nous accueillons dans les lieux de solidarité, il y a des gens qui sont issus aussi de ce milieu-là et pour qui les choses ne sont pas bien passées. Ça arrive dans tous les milieux. Et donc, c'est aussi bien qu'on puisse parler à ce public-là et leur dire que nos lieux ne sont pas seulement... Delio Auster, Tristounet.
C'est pas la fin de la vie, quoi.
Voilà. Mmh. Et qu'on peut aussi s'amuser, s'éclater. Encore une fois, en respectant les règles de vie collective. Hein, y a quand même des contraintes dans ce type de lieu. Mais en essayant de garder de bons souvenirs et de faire vivre le meilleur de ce qu'ils ont pu passer dans leur vie précédente.
Et puis retrouver aussi une forme de hasard dans la rencontre.
Ah, complètement.
Qu'ils ne soient pas non plus que des gens qui ont un parcours difficile.
Exactement. Qu'on puisse mélanger. Il faut mélanger les genres.
Mélanger les gens.
Le jour, la nuit, tout le temps.
Partage des pouvoirs, partage des savoirs. On a beaucoup à apprendre. C'est horrible, je vais dire, comme dit Jacob, à ces gens ni ces personnes, de ces êtres, en termes de survie aussi.
Ah oui.
Et ça, il n'y a pas encore de savoir universitaire là-dessus, c'est encore un peu caché.
C'est un peu étudié quand même. Nous, on organise chaque année à la ville de Paris ce qu'on appelle la Nuit de la Solidarité. Alors, c'est moins festif que ce qu'on a ce soir. C'est un décompte des personnes sans solution d'hébergement à un instant T, une fois par an, pour savoir combien de places d'hébergement il faut créer. Et en fait, ça nous permet aussi, on a un petit questionnaire, on a un échange avec les personnes qu'on croise, donc on les compte entre 22h et 1h du matin. Et en fait, cet échange-là, il nous permet d'avoir un petit questionnaire, d'avoir un profil un peu qui se dégage et de savoir un peu quels sont les parcours et surtout quels sont les moyens de survie que ces personnes-là sont capables de mettre en place pour pouvoir se protéger parce que la vie dehors, c'est dur. Et donc comment ils organisent le fait d'accéder à leurs droits, d'accéder à de l'aide alimentaire, d'accéder à des bains douches, comment ils organisent le fait éventuellement de temps en temps de se mettre au chaud chez des copains.
C'est pas facile de rentrer au bain douche.
Nous on en a 17 hein, des bains douches.
Ah carrément.
Ouais.
Ah, ils sont déployés quoi.
Ouais. Et ils sont ouverts tous les jours.
Sacré David Guetta.
Et plein de ressources.
Mais ouais, le mec a changé la planète.
Des bains douches, c'est un lieu où les gens peuvent se doucher, mais aussi ils peuvent retrouver un cadre de dignité. C'est hyper précieux. C'est très rare dans une ville métropole comme Paris de trouver un réseau de bains douches aussi important et aussi costaud. C'est 900 000 entrées par an.
Comment ça fonctionne le bain douche pour
C'est gratuit.
C'est tout simplement, tu vas
et... On demande rien.
D'accord. Ok, il y a une carte quelque part à récupérer.
Ouais, enfin, la carte elle est sur elle est sur le site de la ville. Vous la retrouverez. Mais on y tient beaucoup. Moi, j'étais à Marseille il y a quelques jours, ils ont ouvert leur premier bain douche.
D'accord, oui, c'est un truc qui était assez répandu, beaucoup plus répandu encore à Paris avant. Il y en a beaucoup qui ont fermé.
Quelques-uns, mais en fait, on a quand même gardé un vrai réseau. Hein.
Ok, ok.
Assez exceptionnel.
Super bon à savoir. Pour terminer, je pense que c'est d'actualité. Est-ce que le nombre de personnes qui ont besoin de vos services est exponentiel? Est-ce qu'on voit en ce moment, puisqu'il m'arrive parfois, vieux réflexe du 20e siècle, de regarder la télévision, et je constate apparemment que c'est carrément la merde, quoi, pour plein de gens. Est-ce que toi, tu vois ça, c'est vrai?
Bah, malheureusement, oui. La situation sociale s'est beaucoup, beaucoup dégradée, non seulement pour les publics qui étaient déjà en situation d'exclusion, qui ne voient plus du tout le bout du tunnel, mais elle s'est aussi dégradée pour les gens qui étaient juste au-dessus et qui ne sont pas encore tombés dedans, mais qui voient bien que ça va pas, l'hiver ne va pas bien se passer. Les factures d'énergie, l'inflation, tout ça a des effets au quotidien pour les publics pour qui 5 euros, c'est important.
Ouais.
Et donc, la situation sociale est dramatique. Les dispositifs de solidarité sont globalement saturés. Donc on n'a pas de lieu où les mettre à l'abri. J'ai encore aujourd'hui procédé à une mise à l'abri d'une centaine de dames avec enfants qui s'étaient installées sur le parvis de l'hôtel de ville. On a dû ouvrir un gymnase parce qu'il n'y a rien de disponible. C'est une vraie inquiétude, c'est une vraie angoisse. Et ce n'est pas une angoisse qu'à Paris, je tiens à le dire, c'est partagé par pas mal de mes homologues dans les grandes villes de France où le désengagement de l'État vis-à-vis de l'hébergement et du logement ont des effets dramatiques sur des milliers de personnes. Sur des personnes qui sont primo-arrivantes, donc des gens qui viennent d'arriver sur le territoire, certes, mais sur des personnes qui sont là depuis longtemps et qui rencontrent de grandes difficultés au vu de la situation sociale. Donc je suis très très inquiète.
Tout va bien se passer, j'espère. Est-ce que
on se bat tous les jours.
Ouais.
Je veux pas finir sur ça. Effectivement, on est très inquiet, mais on se bat tous les jours. pour que le plus dur n'arrive pas, le plus dramatique n'arrive pas. On n'est pas beaucoup entendu par l'État, mais par contre, on est beaucoup entendu par les Parisiens, par les citoyens, par les associations qui sont très mobilisées, très investies sur les questions de solidarité. Et ça, c'est une vraie force pour qu'on puisse se dire qu'en fait, ça va bien se passer.
Toutvabienspasser.com.
Et alors, Jacob, tu as vu son travail là ? Qu'est-ce que tu en as pensé dans les escaliers et dans ce lieu, dans ce transfo ?
Encore une fois, moi, je suis pas très de vie nocturne, mais par contre, je trouve qu'elle est très représentative, je pense, de ce qui se passe dans la vie nocturne. Et je trouve très intéressant le regard qu'il porte sur la vie nocturne. On peut y boire, on peut y dormir, on peut y manger, on peut y danser, on peut y parler. Et on le retrouve beaucoup dans ces photos qui sont, je trouve, très, très représentatives de la vie.
Je suis en quête de mots-clés. Léa, aurais-tu un ou deux mots-clés à me donner concernant le... Je dis plus l'animal, je dis plus le fauve, je dis l'être Jacob. Tu vois, je note les mots-clés, là, je peux en dire quelques-uns. Bienveillant, mystère, sniper, dépasser les limites.
L'enfant.
Insertion. On va parler avec toi tout de suite.
Ouais, très juste, insertion.
Insertion, je rajoute. Ok.
Solidarité.
Ça, tu dis ça pour Jacob.
Ouais, aussi, ouais.
Il est dans la solidarité,
bah ouais,
je note.
Il y a toujours beaucoup de monde et c'est un enfant.
C'est un enfant, Jacob ?
Bah, je sais pas, non. C'est ma fille qui dit ça.
Ah, c'est un enfant, Jacob, tu dis, toi ? Comment t'appelles-tu ?
Judith.
Judith. Prends ce micro, Judith. Pourquoi tu dis que Jacob, c'est... Tu parles de Jacob quand tu dis que c'est un enfant ?
Ouais.
Pourquoi ? Tu le connais ?
Non.
Me dis pas que tu vas en rave.
Non.
À 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, je sais pas quel âge tu as, mais tu...
J'ai 12 ans.
Ouais, voilà, 12 ans, on va pas en rave. Si tu vas en rave, il faut appeler le numéro, là, pour... tu l'emmènes pas en rave. Tu n'y vas pas, en plus. Tu n'as pas dit que t'allais pas en rave parce qu'il y a des supérieurs qui t'écoutent. Non, tu ne vas pas en rave, tu vas pas en rave.
Je ne sais pas ce que c'est.
Voilà, très bien. Bon, alors pourquoi tu dis que Jacob Christ est un enfant ?
Bah, je sais pas, j'ai envie de faire regarder un peu partout et il y a plein de couleurs, etc. C'est joyeux, on va dire. Donc, bah, moi, ça me fait un peu penser à quand on est enfant, on va dire.
C'est ça, être ouvert.
Oui, c'est ça.
Et rigoler un peu de tout, faire des blagues.
Rigoler pour rien, même ça, c'est pas forcément quand on est enfant, mais...
Ouais. Si, quand même, après, les gens l'oublient. C'est quand tu deviens salarié en général.
Certaines personnes.
Ouais, c'est
pas
vrai.
Toutes.
Non, il faut rester fort. Hein. Soyez fort, vous qui nous écoutez, vous laissez pas faire. Vous qui êtes ici, vous laissez pas faire. Merci pour ce mot d'enfant, pour qualifier Jacob Christ d'enfant. Léa Filoche, merci beaucoup.
Merci à vous.
Où peut-on trouver plus d'informations sur ta mission
Sur le site internet de la ville de Paris. Et puis moi, je suis sur les réseaux sociaux. Donc
réseaux sociaux de ouf. Léa Filoche. Pour les harceleurs de questions, pour ceux qui veulent des vraies réponses sur la solidarité.
Là.